Thierry de Montbrial, bonjour. Vous venez de présenter le Ramsès 2013. Alors un Ramsès sur lequel les observations qui sont un petit peu dures peut-être sur certains pays, on pense aux États-Unis, à l'Union européenne. Qu'en est-il ?
Bon, d'abord, ce Ramsès, nous l'avons mis sous un point d'interrogation, c'est gouverner aujourd'hui. Donc gouverner aujourd'hui est extrêmement difficile, c'est lié d'ailleurs en grande partie à l'évolution des technologies, de l'information, de la communication, aussi à la circulation des idées, ce dont il n'y a pas matière à se plaindre par ailleurs, et la difficulté de gouverner, elle est aussi liée au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau régional ou qu'au niveau mondial. Donc on regarde les différentes facettes, et bien sûr un certain pessimisme que votre question suggère est lié à l'identification de ces difficultés. Alors prenez par exemple l'Union européenne. L'Union européenne, on voit bien que dans la crise de la gouvernance de l'euro, elle a énormément de mal à s'ajuster parce qu'il y a beaucoup de gouvernements, parce qu'il y a des processus démocratiques qui ralentissent les décisions, parce qu'une fois que les décisions sont prises, il faut encore pouvoir les exécuter. Au moment précis où nous parlons, la décision de Karlsruhe vient de tomber, qui semble positive, les pour la mise en œuvre des décisions prises en Allemagne, mais là où il va quand même y avoir des subtilités au niveau de l'exécution, etc. etc. En Europe, difficulté de gouvernance, aux États-Unis aussi, on a des... Alors oui, on peut donner l'impression d'un certain pessimisme, mais ça c'est lié aussi au fait que, en termes relatifs, les États-Unis, le poids des États-Unis diminue mécaniquement, d'ailleurs, ne serait-ce que par la croissance des autres pays, et je pense aux pays d'Asie. Donc il y a aussi des effets mécanique, il y a aussi peut-être une certaine lassitude de la part de l'opinion publique américaine vis-à-vis des engagements extérieurs. Alors effectivement, on est amené à regarder tout ça un peu pays par pays, région par région, et plus on avance dans ce tour d'horizon, et le plus on voit apparaître de points d'interrogation.
Alors, Madame Guigou, qui assistait à la présentation du Ramsès 2013, a insisté sur un certain nombre de points. J'en retiendrai deux. Un concerne les pays du Maghreb et du Proche-Orient, pour lesquels elle insistait sur une relance de l'Union méditerranéenne. Et puis, deuxième axe, qui n'est pas non plus non lié à ce Proche-Orient, c'est la Russie, qui intéresse particulièrement aussi nos lecteurs qui sont consultants et pour lesquels le pourtour méditerranéen et l'Est européen est vraiment quelque chose de très important à l'avenir. Alors comment vous voyez ces zones, justement ?
Alors en ce qui concerne le Maghreb et le pourtour méditerranéen, pour ce qui me concerne, j'ai toujours été assez sceptique sur l'idée d'une politique, d'une approche unifiée, donc l'Union pour la Méditerranée, etc., parce que... à supposer même qu'on soit capable de définir avec précision la zone, ce qui n'est pas forcément évident, on voit que les obstacles sont énormes. Les pays du Maghreb eux-mêmes, n'est-ce pas, au stricto sensu, sont toujours dans des difficultés relationnelles considérables, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Il y a la question israélienne, israélo-palestinienne, qui bloque de nombreuses discussion. Donc je crois que l'idée d'une union pour la Méditerranée, d'une politique unifiée du bassin méditerranéen, personnellement, je suis assez sceptique. En revanche, que nous devions avoir des politiques actives dans ces régions me paraît évident. Et c'est une question de nuance. Et pour le moment, la priorité, c'est de bien comprendre ce qui est en train de se passer, bien entendu, parce que le Maroc a évolué d'une manière assez remarquable. Enfin, l'avenir est quand même ouvert. Que va donner le gouvernement islamique actuel? Comment est-ce que la nouvelle constitution va être mise en œuvre? Est-ce qu'il y aura suffisamment de succès économique pour satisfaire l'évolution, pour satisfaire la société? Même au Maroc, il y a beaucoup de questions. En Algérie, jusqu'ici, ça n'a pas beaucoup bougé. Peut-être en partie, d'ailleurs, parce que les Algériens sont fatigués d'une guerre civile qui a fait peut-être près de 200 000 morts dans les années 90. La Tunisie, comment va-t-elle évoluer exactement? Beaucoup de points d'interrogation. L'Égypte aussi, la Libye, bien entendu, pour l'instant, est encore largement chaotique, etc. Donc il faut regarder et comprendre ce qui est en train de se passer dans ces différents pays pour voir comment on peut les accompagner au mieux, et en tenant compte évidemment de nos intérêts. En ce qui concerne la Russie, je crois que c'est une illusion de penser que nous puissions avoir une politique européenne vis-à-vis de la Russie. L'Union européenne est une unité politique en train de se faire, qui progresse douloureusement, difficilement, on le voit bien à travers la crise de la gouvernance de l'euro, et en matière de politique étrangère, on parle bien de politique étrangère et de sécurité commune, mais ce que nous pouvons faire d'une manière réaliste au mieux, c'est plutôt de limiter nos divergences, d'avoir un certain nombre d'actions communes dans certains cas, mais nous n'avons pas encore atteint pour l'Union européenne le stade où on pourrait avoir une politique unifiée, surtout pour les grandes questions, et la relation avec la Russie est une grande question, bien sûr. Alors, typiquement, je pense qu'il y a une approche entre la Russie et l'Allemagne, par exemple, et par ailleurs une approche entre la Russie et la France, répondent à des logiques historiques qui sont différentes. Il y a toute une histoire derrière tout cela. Vous voyez. Donc je pense que nous avons peu de chance d'avoir, dans l'avenir prévisible, une politique vraiment totalement unifiée vis-à-vis de la Russie, et ça c'est lié à la nature même de la construction européenne.
Alors vous revenez du Liban, vous nous indiquiez à cette occasion que dans le conflit syrien, la Russie et la Chine avaient des positions que les Européens actuellement ne comprenaient pas vraiment et qui s'expliquaient bien dans vos propos.
Oui, et qu'on peut résumer de la façon suivante. Premièrement, ces deux pays sont en désaccord fondamental avec notre approche, nous étant les Occidentaux en général, de la relation avec le phénomène islamiste. Et ça date de très longtemps, puisque ça remonte aisément aux années 70 et à l'époque de l'invasion par l'Union soviétique de l'Afghanistan. Donc ils pensent, pour dire les choses, là je pense à la formulation russe typiquement, que nous sommes en train de fabriquer la corde avec laquelle nous serons pendus, pour reprendre la fameuse expression de Lénine à propos du capitalisme. Donc ils sont en désaccord fondamental sur notre manière de traiter, par exemple le fait d'encourager, si vous voulez, les djihadistes en Syrie, typiquement. La deuxième raison, qui vaut aussi bien pour la Russie que pour la Chine, c'est qu'ils sont convaincus que les Occidentaux ont pour but majeur de déstabiliser leur propre régime, et ils n'ont évidemment pas envie de se retrouver dans la situation de la révolution orange d'il y a quelques années, qui a d'ailleurs échoué, et ou encore dans la situation du printemps arabe. À quoi s'ajoutent également des intérêts plus spécifiques comme la reprise d'un levier d'action au Moyen-Orient pour le cas de la Russie, l'accès aux ressources énergétiques, surtout pour le cas de la Chine. Et tout cela fait que j'observe avec une certaine inquiétude une sorte de nouveau conflit Est-Ouest qui est en train d'émerger autour de cette question du Proche-Orient, du Moyen-Orient.
Alors, nos lecteurs, ce sera la dernière question, s'intéressent bien sûr à leurs clients, ils sont tous consultants, leurs clients installent des entreprises un peu partout sur le pourtour méditerranéen, dans les pays de l'Est. Quel sera un petit peu le propos de l'IFRI sur ce que doit être pour eux dans les années qui viennent, un peu la stratégie de ces entreprises, parce qu'il y a quand même un certain risque, et puis un équilibre économique aussi qui peut se mettre en place. Quel sera un petit peu le point de vue sur ce monde un peu complexe qui est en train de se développer, qui est très ouvert, mais qui est aussi très risqué?
Oui, mais cela, c'est en effet une caractéristique générale du monde moderne, il y a moins de risques absolument majeurs qu'il y en avait à l'époque de la guerre froide, genre des guerres nucléaires, des choses comme ça, si vous voulez. En revanche, il y a beaucoup plus de risques diffus, plus d'ampleur plus limitée. Il y a beaucoup de corrélation aussi entre les risques, ce qui est lié à l'effet papillon. Il se passe quelque chose quelque part et ça entraîne des crises ailleurs. Donc, en effet, le monde actuel est très risqué, mais je dirais qu'il est très risqué partout. Même en Chine, vous pouvez avoir un ralentissement de la croissance, vous pouvez avoir une crise politique ou une crise économique majeure. Tout ça peut parfaitement se produire. Vous voyez, même en Inde, par exemple, dans un contexte fort heureusement qui n'est pas dramatique, mais on voit un ralentissement de la croissance, on voit une crise politique qui a des effets en termes de ralentissement de la croissance économique, etc. Alors, en ce qui concerne les entreprises, comme la mondialisation est là pour continuer, elles doivent absolument continuer de s'investir dans toute une gamme de pays, mais elles sont obligées de faire des analyses fines des pays dans lesquels elles vont, mais comme chacun sait, le risque, c'est bien connu, bien identifié des économies par les économistes depuis au moins un siècle, ou presque un siècle en tout cas. Disons, le profit, c'est la récompense du risque, et le symétrique évidemment du profit, c'est la perte.
Bien, merci pour cette synthèse, Thierry de Montbrial. Merci pour nos lecteurs et nos auditeurs.
Merci à vous. Et je vais donc vous dédicacer avec plaisir ce livre.